Voici une question bien simple, mais dont toute personne doit avoir la réponse pour connaître le chemin qui mène au ciel. Qui est Jésus-Christ? La parole de Dieu va nous le faire connaître aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Que vous soyez croyant ou incroyant, ma prière à Dieu, c'est que vous entendiez avec votre cœur les réponses aux questions que voici. Est-ce que les deux multiplications des pains étaient identiques? Qu'est-ce que Jésus voulait enseigner à ses disciples quand il leur a dit de se garder avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode? Est-ce qu'il y a un danger qu'une personne qui croit tout connaître puisse cesser de grandir spirituellement? Quand est-ce que les croyants auront une connaissance parfaite des Saintes Écritures? Est-ce qu'il faut connaître Christ pour comprendre ce qui se passe dans le monde? Qui est Jésus-Christ? Quelle est la plus belle chose que l'apôtre Pierre a faite sur cette terre? Et maintenant, voici une question qui s'adresse à toi, mon ami. Es-tu chrétien? Chrétienne? Et si oui, quelle sorte de chrétien ou de chrétienne es-tu? Demeure à l'écoute. La parole de Dieu va t'enseigner des choses qui ne pourront certainement pas te laisser indifférent. Ta vie pourrait changer complètement dans les minutes qui vont suivre. Mais avant d'écouter ce que le Seigneur va nous dire par la bouche du pasteur Réjean Joly, prions. Ô Seigneur, je pense que c'est une question de vie et de mort, ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui. Aide-nous à être vraiment attentifs. Convainc-nous, Seigneur, par ta parole. Amen. À toi, Réjean.
Merci, Caro. Ce huitième chapitre que nous allons entamer dans les prochaines minutes de l'Évangile selon Marc a environ la même longueur que le chapitre précédent. Nous remarquons que c'est aussi un chapitre rempli d'action. Jésus nourrit une foule de 4000 personnes sur la côte de la Décapole et, à Bethsaïda, les amis d'un aveugle demandent à Jésus de le toucher. Ensuite, Pierre fait sa confession de foi à Césarée de Philippe. Ce que Jésus a fait était important pour les Romains et ce doit l'être pour nous aujourd'hui. Est-ce que Jésus est capable de nous sauver entièrement? Peut-il accomplir cette tâche? Il est le serviteur de Dieu, et nous découvrons qu'il peut faire son travail. Dans ce chapitre, nous remarquons aussi que Jésus se déplace beaucoup. Certains pensent que le miracle de la multiplication des pains qui ouvre ce chapitre est une répétition de celui où il a nourri une foule de 5000 personnes. Donc, elle ne s'arrête pas vraiment sur ce miracle et le néglige. Les critiques qui désirent éliminer le surnaturel de la Bible affirment que ce miracle fut ajouté pour donner de la crédibilité à Jésus, le faiseur de miracles. Si c'était le cas, le deuxième miracle serait plus grand que le premier. Jésus aurait probablement nourri 10 000 personnes plutôt que 4 000. Les gens ont plutôt tendance à exagérer, alors qu'ici, c'est l'inverse. Les deux miracles sont semblables sur bien des points. Christ nourrit des milliers de personnes. Cependant, il y a 7 différences entre ces deux miracles. La première, lors du premier miracle, la foule était avec Jésus depuis un jour, alors qu'au deuxième, elle l'est depuis 3 jours. Deuxième différence, la première fois, les disciples ont dû trouver des pains et des poissons. La deuxième fois, ils avaient leur enseignement au moment que Christ l'a demandé. Troisième différence, la foule de 5000 fut nourrie à partir de 5 pains et 2 poissons, mais la foule de 4000 à partir de 7 pains et quelques poissons. Quatrième différence, le premier miracle se fit au temps de la Pâque et la foule fut invitée à s'asseoir en groupe sur l'herbe. Le deuxième miracle se fait plus tard dans l'année, au moment où le soleil plombant a fait sécher l'herbe et la foule est invitée à s'asseoir sur la terre. Cinquième différence, la première fois, Jésus a béni les pains, alors que la deuxième, il a rendu grâce pour les pains pour ensuite bénir les poissons. Sixième différence, il restait 12 paniers de pain après le premier miracle, et 7 après le deuxième. Et la dernière, septième différence, ce n'est pas le même nombre de personnes qui fut nourrie lors des deux miracles. Le premier miracle fut fait après une journée d'enseignement, et selon Jean, ce miracle fut suivi du discours sur le pain de vie. Le discours était donc un genre de conférence après un repas. Par contre, la foule de 4000 personnes fut nourrie après avoir entendu l'enseignement de Jésus pendant 3 jours. La foule n'était pas venue pour être nourrie, mais pour recevoir l'enseignement de Jésus. Il y a une leçon importante pour nous ici. Se sert-on de repas d'église pour attirer des gens? Si oui, notre motif n'est pas bon. Bien des églises ne peuvent qu'attirer des gens que si elles servent un banquet. Des classes bibliques se fient à de la nourriture pour attirer les gens. Est-ce que Dieu peut bénir cela, qu'importe si le motif est très pur? Je vous laisse répondre vous-même. La fin ne justifie pas toujours les moyens. Maintenant, nous allons lire ce miracle et remarquer son début. En ce jour-là, ce détail indique que ce miracle fut fait dans la région de la Décapole. La foule avait suivi Jésus dans un désert, un endroit propice pour enseigner, mais où la nourriture était rare. Des grandes foules suivent Jésus maintenant. Débutons notre lecture. Marc chapitre 8, versets 1 à 9. En ce jour-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on les rassasier de pain, ici, dans un lieu désert ?» Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?»« 7, répondirent-ils. Alors, il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et, après avoir rendu grâce, il les rompit. Il les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Nous notons un fait curieux ici. Il semble que les disciples aient déjà oublié le premier miracle. Je pense que nous faisons souvent comme eux. Dieu nous bénit de façon particulière au cours d'une épreuve, et nous n'y pensons plus à l'épreuve suivante. Nous devons réapprendre la leçon à partir de 0. Cependant, les disciples avaient pris un inventaire car ils connaissaient le nombre de pains disponibles. Peut-être s'attendaient-ils à une répétition du premier miracle. Cette fois, il y avait plus de pain pour moins de personnes, mais ce n'était pas suffisant pour rassasier 4000 personnes. Nous ne savons pas qui a fourni ces pains, mais ce donateur anonyme recevra sa récompense un jour. Remarquez que les 2 fois, Jésus n'a pas donné un simple petit goûter. En fait, il y eut des surplus de pain. La foule fut rassasiée avec un repas complet. Si l'on estime qu'il y avait, en moyenne, une femme et un enfant par homme, alors la foule devait être près de 12 000 personnes. Versets 10 à 15. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément son esprit, dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Dans la Bible, le levain représente l'enseignement faux et erroné. Il ne représente jamais l'Évangile. Certains enseignent que le levain représente l'Évangile dans la parabole qui met du levain dans 3 mesures de farine, celle que nous retrouvons dans Matthieu chapitre 13, verset 33. Le repas symbolise l'Évangile, et le levain représente le faux enseignement qui y est ajouté, afin de rendre son message agréable aux non-croyants, c'est-à-dire à l'homme naturel. C'est ainsi que le libéralisme est apparu. Des pasteurs ont voulu plaire aux membres non sauvés de leur congrégation. Cela se fait très couramment de nos jours. C'est cela, mettre du levain, ou des faux enseignements, dans 3 mesures de farine. Ils ne veulent que du pain avec levain, car ce pain a une saveur plus délicieuse que le pain sans levain. Versets 16 à 18. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, le sachant, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? » J'enseigne depuis de nombreuses années, et il m'arrive de découvrir qu'une personne dont je pensais qu'elle comprenait des vérités spirituelles n'y entendait rien du tout. Elle n'a rien compris à l'enseignement qui lui fut donné à plusieurs reprises. Il arrive même que ce type de personne fréquente l'Église depuis des années. Versets 19 à 21. Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7. Répondirent-ils. Et il leur dit, « Ne comprenez-vous pas encore? La parole de Dieu est le pain de vie parce qu'elle révèle Jésus-Christ. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu et nous méfier du faux enseignement. » Verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Nous nous trouvons maintenant devant un autre miracle remarquable de Jésus-Christ. Il a répondu à la requête en touchant les yeux de l'aveugle. Remarquez cependant qu'il a conduit l'homme hors du village. Se peut-il que Bethsaïda, village témoin de nombreux miracles, soit devenu comme Nazareth, un endroit où Jésus ne pouvait plus faire de miracles? Il n'y a aucune valeur médicinale dans la salive. Jésus fait cela pour augmenter la foi de cet homme. Lisons ce miracle afin d'y saisir une vérité spirituelle. Versets 23 à 26. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et, quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Jésus avait déjà prononcé une malédiction sur la ville de Bethsaïda. Matthieu chapitre 11, verset 21. Maintenant, nous désirons examiner ce miracle de près. Pourquoi Jésus s'y est-il pris de cette façon pour guérir l'aveugle? N'aurait-il pas pu simplement faire comme il avait fait dans les cas précédents?
Oui, il aurait pu le faire. Il aurait pu guérir cet homme immédiatement.
Mais Jésus enseigne à cet homme, ainsi qu'à nous, une leçon. Cette guérison se fit en trois étapes.
La première, l'aveuglement. Nous sommes spirituellement aveugles. Comme cet homme, nous pouvons dire, « J'étais aveugle, mais maintenant je vois. »
Cependant, Marc est le seul à nous rapporter qu'il n'a retrouvé la vue que partiellement. Deuxième étape, la vision partielle. N'est-ce pas une excellente description de notre condition aujourd'hui? 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12 nous dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. »
Il arrive parfois que par une remarque, des personnes nous montrent qu'elles ont du discernement spirituel.
Ces personnes sont très au-dessus de la moyenne, et elle pense parfois que j'en suis là aussi. Cependant, je dois confesser que je vois au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Par contre, d'autres personnes pensent qu'elles savent tout. C'est un malheur dans plusieurs de nos églises évangéliques. Il arrive que des personnes n'assistent pas aux études en milieu de semaine, car elles pensent en connaître plus que le pasteur. C'est peut-être possible, mais généralement, ces personnes en savent moins qu'elles le pensent. De son vivant, Socrate a affirmé être le plus sage des Athéniens. Cela en a surpris plusieurs, car il était généralement une personne humble. Donc, on lui demanda ce qu'il avait voulu dire par cette affirmation. Il a répondu à peu près ceci. « Il y a de nombreux Athéniens qui pensent tout connaître, mais je sais que je ne sais pas tout. Puisque je sais cela, je suis le plus sage des Athéniens. » Il y a bien des chrétiens qui pensent tout savoir aujourd'hui. Cependant, l'apôtre Paul dit que nous voyons au moyen d'un miroir, d'une façon obscure. Lorsque nous serons en présence de Christ, alors nous connaîtrons tout ce que nous avons à connaître. Je serai heureux lorsque je serai là, car finalement, je connaîtrai quelque chose. Troisième étape, une vue parfaite. Nous aurons une vision spirituelle de 20-20. Lorsque nous serons en présence de Christ. C'est à ce moment-là que nous verrons vraiment. Remarquez que lorsque le Seigneur a terminé, l'aveugle voyait parfaitement. Il y a un autre élément de ce miracle que je n'ai pas le temps de développer entièrement. Avez-vous déjà remarqué la variété de méthodes que Jésus a employées pour guérir les aveugles? Cet aveugle qui fut guéri à Bethsaïda aurait pu organiser une confession religieuse appelée « la touche divine » et qui aurait chanté « Touche-moi, ô Dieu ». Lorsque Jésus a guéri Bartimée par une parole sans le toucher, celui-ci fut guéri par la foi. Bartimée aurait pu fonder sa propre confession religieuse, l'Église de la foi, qui aurait chanté « Crois seulement ». Par contre, l'aveugle-né à qui Jésus demanda de se laver dans la piscine de Siloé aurait pu créer une confession religieuse, l'Église baptiste siloénienne. Ses adhérents auraient chanté « Rassemblons-nous à la rivière ». Est-ce que vous pensez que tout cela est ridicule? Ça l'est. Une chose qui aurait été ridicule à l'époque est une pratique courante aujourd'hui. Il y a une leçon pour nous dans ce miracle. Verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, et il leur posa en chemin cette question. « Qui suis-je, au dire des hommes? » Chers amis, nous arrivons à la confession de foi de l'apôtre Pierre. Nous avons déjà traité ce sujet en détail dans l'Évangile selon Matthieu. Donc, nous ne nous attarderons pas.
Cependant, la question importante est « Qui est Jésus ?» Ce que nous pensons de Christ révèle notre état spirituel. Nous ne pouvons pas avoir une conception claire du monde à moins d'avoir compris qui est Christ. Mes amis, il est crucial d'être unis à Christ, de faire un avec lui. Nous devons être en communion avec Jésus-Christ. Verset 28. Ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, l'un des prophètes. Les personnes qui disaient cela ont raté la cible, malgré le fait qu'elles aient eu une bonne opinion de Christ. Pour vous, Christ est-il le Fils de Dieu? Dieu fait homme afin de donner sa vie en rançon pour nos péchés, afin que nous soyons crucifiés et ressuscités avec lui. Est-il celui qui intercède pour nous dans le ciel sur la base de son sacrifice, en plaidant son sang versé pour nos péchés? La plus belle chose que Simon-Pierre a faite est de dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Les détails complets se trouvent dans l'Évangile selon Matthieu. Maintenant, examinons ce que le Seigneur Jésus enseigne à partir du verset 31. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Le Seigneur ne se révèle pas sans souligner son travail de rédempteur. Voyez-vous, chers amis, notre salut dépend entièrement de qui est Christ et de ce qu'il fait. C'est après que Simon-Pierre eut confessé qui était Jésus que celui-ci lui dit « Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. » Marc chapitre 8, verset 31. Puis, il prononce les paroles que nous venons de lire. Donc, Jésus ne parle pas d'une condition de salut, mais il parle de l'état de ceux qui sont sauvés. C'est de cela qu'il parle. Quiconque aura honte de moi. Jésus est en train d'expliquer à ses disciples ce qu'il attend de ceux qui ont cru en lui. Quelle sorte de chrétien êtes-vous? Êtes-vous de ceux qui confessez Christ, le servez et cherchez à le glorifier? Mes amis, ceci est très important dans le monde dans lequel nous vivons présentement. Établir un bon témoignage qui honorera et glorifiera notre Maître qui est le Christ. Chers amis chrétiens, demandons à Dieu notre Père d'affermir notre marche chrétienne, notre foi, d'avoir un témoignage fort, efficace et puissant. Ayons le courage de prendre position pour lui dans ce monde incrédule. Que les gens de notre entourage voient que nous lui appartenons. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Marc 9.
Merci beaucoup, Régent. Mon ami, as-tu entendu ce que j'ai entendu? Je veux répéter une courte phrase que Régent a dite. Nous ne pouvons pas avoir une conception claire du monde à moins d'avoir compris qui est Christ. On doit être unis à Jésus, faire un avec lui. Pour toi, est-ce que Christ est le Fils du Dieu vivant? Est-ce qu'il est Dieu fait homme? Celui qui a donné sa vie en rançon pour tes péchés? Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as ouvert la porte de ton cœur pour le laisser entrer et prendre toute la place? Est-ce que Jésus est l'agneau de Dieu qui a ôté ton péché? Jean-Baptiste a dit de lui, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Est-ce que tu lui as demandé d'ôter ton péché? T'es-tu reconnu coupable devant Dieu d'avoir commis des péchés dans ta vie? As-tu demandé pardon à Dieu? T'es-tu repenti sincèrement? T'es-tu détourné de ta vie de péché, demandant à Dieu de te donner sa force toute-puissante pour ne plus y retourner? Sinon, il n'est pas trop tard pour le faire en ce moment. Crois-tu qu'il y a seulement le sacrifice de Jésus à la croix qui puisse être agréé de Dieu pour le pardon de tes péchés? Réalises-tu que tu n'as pas la capacité de te sauver toi-même? Quand bien même tu irais jusqu'à mourir sur une croix, ton sacrifice n'aurait aucune valeur pour Dieu. Ça prenait un sacrifice pur, sans défaut. Aucun être humain sur la terre n'est sans défaut, on a tous péché. Paul nous dit dans son Épître aux Romains, au chapitre 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Le seul qui soit venu sur la terre sans péché, c'est Jésus, le Fils du Dieu vivant. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. Peu importe ce que tu aies pu faire de mal dans ta vie, Dieu est prêt à te pardonner maintenant, à te donner le don gratuit de la vie éternelle. Dis-lui, Seigneur, sauve-moi, il va le faire. Il a promis de sauver tous ceux qui croient en Jésus, qui le reçoivent comme leur sauveur, leur Seigneur. Tu sais, mon ami, quand Jésus est mort sur la croix, ce ne sont pas les clous qui l'ont retenu, les clous dans ses mains, dans ses pieds. Ce qu'il a retenu là, c'est son amour pour toi. Il savait que tu viendrais sur cette terre un jour, que tu pécherais contre lui. Il a volontairement laissé sa créature le crucifier. Il a souffert jusqu'à son dernier souffle. Et là, il a dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Jusqu'à ce moment-là, il portait tes péchés sur lui et il était privé de la présence de son Père. Et toi, tu es privé de la présence de Dieu à cause de tes péchés. Repens-toi et crois au Seigneur Jésus, et tu vas te retrouver dans la présence de Dieu.
Caro, nous avons un camp de l'espoir qui se déroulera du 1er au 4 octobre 2003 à Shawinigan.
Et j'ai bien hâte d'y être.
Nous allons faire des sondages. La venue de ces gens seront annoncés dans votre journal local. Ouvrez-leur votre porte et votre cœur afin de répondre à ce petit questionnaire.
Et en plus, ils vont vous remettre une invitation pour une soirée gospel au Collège Shawinigan à 19h30, vendredi soir le 3 octobre. Suivi par un déjeuner de l'espoir samedi matin le 4 octobre à la Casa Grecque, place Birmans, Shawinigan à 9h.
Caro y donnera son témoignage, une vie transformée par la puissance de Dieu. Ces invitations, elles sont gratuites. La population de Shawinigan et de la Mauricie est invité.
On veut vous rencontrer.
Venez-y, en grand nombre.
Donnez-vous du bon temps. Vous ne le regretterez pas, vous allez apprendre des choses extraordinaires sur la personne de Dieu, ce Dieu qui vous aime.
Pour nous rejoindre, au téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca ou adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlebourg, Québec, G1G 6P2.
Chers amis, c'est un rendez-vous.
À demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.